10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors non, c'est pas les petites annonces, c'est l'imam Abdelali Mamoun. Alors qui peut faire des petites annonces, hein.
Ah mais bon, là c'était le
non, c'est l'islam au
jingle,
présent.
C'était le jingle, j'ai pas entendu le jingle là.
Parce que vous êtes pas concentré, imam Abdelali.
Bah pourquoi pas des petites annonces religieuses. Je sais pas, on va faire des petites annonces ce matin, Inch'Allah.
Qu'est-ce que vous.
Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. J'ai oublié de le dire avant. Bonjour à toi Philippe et à tout le monde. Il y a Fatima Zohra, toute l'équipe, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Inch'Allah, Ayyam Mubaraka qui nous attend. Et puis si je ne peux pas vous le dire, je vous le dis déjà maintenant, je vous le dirai encore après. Eid Mubarak, c'est Eid Jamia, Inch'Allah. Bonne fête de l'Aïd à tous. De toute façon, c'est déjà des jours de fête. Là,
on est super en avance. Hein. Alors, le mois de Doulidja a démarré ou pas, Imam Abdelali, puisqu'on était dans l'attente de cette nuit du doute.
Alors non, la nuit du doute, c'est ce soir. Alors, on va appeler ça une nuit du doute, mais bon, c'est un petit peu comme pendant le Ramadan cette année, on a eu de la chance aussi de n'avoir aucune ambiguïté sur le fait que on a débuté tous ensemble, même ceux qui étaient en bisbise, c'est-à-dire les différentes fédérations qui représentent l'islam en France, n'étaient pas en bon terme, mais malgré tout, ils étaient au moins d'accord sur le début et la fin du Ramadan. Ça, là-dessus, alhamdoulilah, c'est bien. Et cette année encore, pour la grande fête de Eid al-Adha, on n'aura pas de difficultés, encore une fois, puisque ce soir, c'est la nuit du doute. Aujourd'hui, nous sommes le 29 Dhul-Qa'da. Le 29 Dhul-Qa'da, ce soir, donc c'est aujourd'hui le 29, ce soir, c'est la nuit du doute. La nuit du doute, sauf que la lune ne naîtra que demain matin vers 3h du matin, Philippe. Donc ce soir, au coucher du soleil, en Arabie Saoudite ou dans le monde arabe ou tout autour du bassin méditerranéen et encore plus en Asie ou ailleurs, la lune ne sera pas née. Non seulement elle ne sera pas visible, mais elle ne sera même pas née. Donc il est impossible, je dis bien impossible, que ce soir nous puissions visionner la lune. Ce qui veut dire que demain sera le 30e jour du mois de Dhul-Qa'da, donc le 11e mois du calendrier lunaire, et donc que le premier jour du mois de Dhul-Hijja débutera dimanche, donc après-demain. Après-demain, dimanche, nous serons donc le 11 juillet débutera le mois de Dhul-Qa'da. Le lendemain, on va pas compter le 12, lundi 12, mais la semaine d'après, c'est-à-dire le 18, le lundi 18, ça sera le jour de Arafat. Le lundi 19, excusez-moi. Lundi 19, autant pour moi. Lundi 19, ça sera le jour de Arafat, qui est bien entendu fortement recommandé de jeûner. Parce qu'elle permet d'absoudre les péchés d'une année passée et d'une année future. Sanatun qabila, mardiya ou sanatun qabila, comme le dit le prophète, alayhi sallam. Et le lendemain sera bien entendu le jour de l'Aïd, le mardi 20 juillet, correspondra au 10 Dhul-Hijjah de l'année 1442 du calendrier égyrien musulman et qui correspondra donc à la journée de la fête de Eid al-Adha, la fête du sacrifice, la fête du mouton entre guillemets. Bon, on va lui faire sa fête au mouton surtout, le pauvre. Mais en tout cas, voilà. Le jour du sacrifice, qu'on appelle en arabe aussi Nusuk. Le Nusuk qui est un des plus grands actes d'adoration après la prière. Dans notre prière même, quand un musulman respecte l'ensemble des recommandations, il dit soit avant débuter la prière, selon l'école malikite, soit après avoir débuté la prière, avant Takbirat al-Ihram chez les malikites et après Takbirat al-Ihram chez l'école shafi'ite, c'est le fait de dire Inna salati wa nusuki, ma prière et mon sacrifice. Lillah, ils sont à Dieu, sont voués à Dieu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ma vie et ma mort sont voués à Dieu. Lillah rabbil alamin, Seigneur des mondes. Donc le croyant sait et reconnaît par cette formule qu'il répète tous les jours dans sa prière, 5 fois par jour, soit avant de commencer la prière parce qu'il respecte les recommandations, soit après de débuter la prière. Alors je parle selon l'école malikite et l'école shafi'ite. Alors l'école hanafite, c'est encore autre chose, puisqu'ils ont une autre invocation, ce qu'on appelle du'a ul-istiftah, le du'a que l'on prononce au début de la prière. C'est-à-dire après avoir dit Allahu Akbar, avant de réciter la fatiha, Philippe, tu vois que quand on dit Allahu Akbar, on récite la fatiha, on est bien d'accord dans la prière. Eh bien, il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas, c'est qu'avant de réciter la fatiha, il y a une invocation à dire. Chez les Hanafites, par exemple, c'est le fait de dire Subhanakallahumma wa bihamdik, Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Ça, c'est l'école Hanafite. Et vous avez donc l'école Shafi'ite qui dit, et l'école Malikite. Eux, les Malikites, c'est avant de commencer la prière, avant de dire Allahu Akbar. Les Shafi'ites, c'est après. C'est le fait de dire Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawat wal ard. J'oriente mon visage vers celui qui est à l'origine des cieux et de la terre, celui qui a façonné les cieux et la terre. الذي فطر السماوات والارض حنيفا avec une foi authentique et pure حنيفا وما انا من المشركين et je ne suis en aucun cas idolâtre ou associationniste avec dans mon adoration à Dieu voué à Dieu inna salati ma prière comme je le disais tout à l'heure Wanusuki, donc c'est le terme qu'on cherchait et qui est l'objet de notre débat ou tout au moins de notre discussion de ce matin. Anusuk inna salati wanusuk, c'est le sacrifice que le croyant va faire quand il va égorger une bête pour Allah. Il va la vouer à Dieu et il va déléguer ou lui-même abattre cet animal en l'égorgeant selon les rites musulmans. Alors, en quoi consiste cet abattage? Il essaye d'orienter la tête de l'animal vers la Qibla, hein, et il essaye d'éviter de montrer le couteau. Hein, il respecte un ensemble de règles. Le couteau doit être bien aiguisé, il ne montre pas l'animal, il n'égorge pas un animal devant lui, etc. Bref, il y a plein de choses à respecter en matière d'abattage rituel. En tout cas, au moment où il égorge le mouton, il dit « Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha an nafsi wa an ayali pour moi et pour ma famille ». Bismillah Allahu Akbar. Et si c'est pour quelqu'un d'autre, là il cite le nom, il dit Bismillah Allahumma hada an nafsi wa an Allahumma hada an fulan wa a'ilat fulan pour un tel ou pour la famille d'un tel. Donc à partir de là, le croyant aura donc accompli ce nusuk. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit au sujet de ce nusuk? Il dit que dès la première goutte qui va tomber au sol, Allah subhanahu wa ta'ala va absoudre tous tes péchés. Et il va t'accorder autant de hasanat que l'animal a de poils sur le dos. Imagine, hein, déjà ça. Et il dit, le prophète, que le sang, la goutte de sang de cet animal atteint une place auprès de Dieu avant même qu'elle atteigne le sol. C'est-à-dire qu'elle est déjà considérée comme un acte des plus appréciés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il dit, le prophète, la meilleure des choses après avoir fait la prière de l'Aïd, c'est le fait d'égorger un mouton. C'est le fait d'égorger un animal, de l'immoler. Alors on dit mouton, mais ça peut être un chameau, ça peut être un bovin aussi, un veau ou un taureau ou un bœuf. On peut effectivement, pour cette famille, égorger des bovins ou des chameaux. Et là, on peut le partager entre sept familles. Donc les sept familles, leurs noms seront cités au moment de l'abattage pour un tel, pour un tel, pour un tel, pour famille un tel, etc. Et après ensuite, Bismillah, Allahu Akbar, et là on égorge l'animal. Et il sera valable pour cette famille. Alors vous allez me dire, ouais, mais si moi j'ai pas cette famille, j'en ai que trois, j'ai quand même envie d'égorger un bovin. Oui, c'est possible. J'ai dit sept, c'est le maximum, mais on peut faire pour trois ou pour quatre ou pour deux ou pour un. Même une personne a envie d'égorger un bovin, il peut le faire. J'ai dit un bovin, c'est-à-dire un veau ou un gros animal, c'est-à-dire plus gros qu'un mouton. Bien entendu, toujours on parle des animaux herbivores, hein, les animaux domestiqués et herbivores, la chèvre, le bouc, la brebis, le mouton, le bouc, le chevreuil aussi, pourquoi pas, allons-y, même s'il est un peu sauvage, c'est pas grave, si on en a un qui est dans notre basse-cour, pourquoi pas, un chameau, un veau, un bœuf, un taureau, même une vache, pourquoi pas. Ça passe pour jusqu'à maximum sept familles. Sinon, un mouton, c'est minimum 6 mois. L'animal doit avoir au moins 6 mois. Ah oui, pour le bovin, il doit avoir au moins 2 ans. Et voilà, aussi pareil pour le chameau, au moins 2 ans. L'animal doit avoir au moins 2 ans. Sinon, ça n'est pas valide. Donc, l'animal qui a moins de 6 ans, eh bien, ça ne passe pas que de dégorger un mouton de moins de 6 mois. Excusez-moi, je dis 6 ans. Autant pour moi. 6 mois.
Il a du poil aux pattes.
Il a déjà dit
poil aux pattes. Il a drôlement du poil aux pattes.
Il a surtout des grosses cornes sur la tête, peut-être même. En tout cas, oui, même s'il a 6 ans, pourquoi pas. Hein, si c'est un gros bélier, par exemple, un gros bélier, ça passe pour une famille, c'est très bien. J'ai dit bien une famille. À partir du moment où c'est un ovin, c'est-à-dire un mouton, un bélier dans la catégorie des ovins, eh bien, ça ne passe que pour une seule famille. Bien entendu, on ne peut pas égorger une poule, un poulet ou un coq à la place, bien sûr, ça sert à rien. Il faut que ça soit un bovin ou un ovin ou un chameau. Voilà, toute la catégorie des ovins, toute la catégorie des bovins et des chameaux. Le chameau, bien sûr, 2 ans, et les bovins aussi 2 ans. L'animal, on doit faire en sorte qu'il n'ait aucun défaut. Faut pas qu'il ait la queue coupée, qu'il soit boiteux, qu'il soit borgne, qu'il ait l'oreille cassée ou l'oreille coupée. Faut qu'il soit un animal en bonne santé. Qu'il soit un animal bien constitué. Voilà. En gros, Philippe, il va nous refiler le Covid. Là. Moi, je suis vacciné, t'as de la chance.
C'est pas le moment.
Pas le moment.
Mais vacciné.
Ça va, je viens de faire le test ce matin.
Oui, mais attends, vous avez le résultat ?
Ce soir.
Bah alors.
Ouais, mais là, même si tu me le refiles maintenant, ça sert à rien.
Il faut refaire le test.
Non, il faut pas le refaire, puisque je l'aurai ce soir négatif. C'est bon, je pars avec.
Non, alors, parce que vous avez, je vous rappelle qu'il y a 2 tests. Il y a 1 test le jour de l'arrivée et 1 test à J+5.
Ouais, donc ça veut dire que ça sera au moins dans 6-7 jours.
C'est ce que je vous dis.
Donc ça va.
Le test à J+5.
Ouais, mais
là, il sera... d'un cumulé.
Est-ce que quand je chope le Covid, je sais pas, tu vas me dire, c'est toi qui reçois beaucoup de.
Non, moi, je pose des questions, je réponds pas.
Est-ce qu'on peut le détecter, c'est quoi la période d'incubation? À partir de quel moment on dit qu'on l'a plus, quoi?
À partir du moment où vous avez des anticorps, il m'a.
Non, quand je fais un test, à partir du moment, à quel moment mon test devient négatif?
C'est pour ça qu'ils le font à J+5. C'est parce qu'on part du principe qu'à J+5, vous êtes détectable.
D'accord. Et jusqu'à combien de temps? C'est ça ma question.
Ça, j'en sais rien. Il m'a dit, voilà, c'est la problématique, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, tout le monde n'est pas d'accord sur la durée de la quarantaine. Beaucoup disaient qu'une quarantaine de 5 jours, c'était pas suffisant, qu'il fallait augmenter cette quarantaine. C'est pour ça qu'au début, on avait une 14aine.
Là, en Algérie, c'est 5 jours.
Ouais, mais enfin, c'est des jours algériens.
C'est des jours algériens. Ouais. Ils font, je sais pas combien, 24.
Ça dépend si vous payez, à mon avis, ça va. Au bout de 24 heures, vous êtes sorti.
Ah non, je pense pas. Non, là, les gens, ils respectent, ils sont dans les hôtels, ils payent 5 jours. Bon, par contre, à partir du moment, dès le matin du, je crois, c'est 4 nuitées, le 5e jour, vous pouvez partir. C'est 4 nuitées, je crois. Allah, 5 nuitées? Ah ouais, c'est 5 nuitées, d'accord. Je suis mal barré parce que j'arrive demain matin, moi, trop tôt, déjà tôt. Alors, je sais pas s'ils vont la compter cette nuit-là. Est-ce qu'ils vont la compter?
Ah ben non, c'est pas une nuitée. Non, la nuitée, c'est la première nuit que vous passerez.
Voilà. Oui, aïe, ça fait long alors.
Oh, écoutez, il faut souffrir pour l'Algérie.
Bah, j'espère qu'ils auront une petite piscine là devant l'hôtel là.
Mais c'est un confinement.
Oui, dans la piscine.
C'est bien ce que je disais. Ils respectent le
piscine
confinement.
Piscine halal. Si elle est halal, ça passe.
Bon, vous arrivez quand ?
Inch'Allah, demain matin.
Donc demain, ouais, non, on est encore Doulkada, ça sera pas Doulidja, donc ça sera pas dimanche. Bien, alors
disons que ça, la lune sera née, la lune, puisqu'elle naît demain matin à 3h, là, ce samedi là. Demain matin, elle va naître, la lune. Donc on saura finalement indirectement le mois de Doulhijja, mais on ne le validera pas comme étant une journée de Doulhijja. Alors que tu vois, si on prenait que le calcul, tu vois, si on prenait que le hisab, le calcul, eh bien normalement, le premier jour, c'est demain, puisque à 3h du matin, la lune est née. Donc à Al-Fajr. Al-Fajr, normalement, c'est la nuit de. C'est la nuit, Al-Fajr, ça devrait être compté comme étant une journée de Dhul-Hijjah. Mais non. Donc vous voyez bien que c'est plus compliqué, histoire de prendre en compte le calcul avec la vision, etc. Donc.
Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que finalement, ce mois, le 12e mois de l'année, il est lié au pèlerinage.
Tout à fait.
Donc finalement, ce sont les gens qui sont sur les lieux du pèlerinage qui devraient décréter les bonnes dates.
C'est le cas, puisque voilà. Ce sont même les autorités saoudiennes.
De toute façon, ça n'a pas de sens.
C'est le ministère de la Justice avec le ministère des Affaires religieuses qui se réunissent avec le Haut Conseil des Ulama, des savants d'Arabie, qui décrètent le début du Ramadan, le début du mois de Dhul-Hijjah. Le mois de Dhul-Hijjah, comme je te dis, cette année, il n'y aura pas de difficulté. La probabilité à 99% pour laisser aller 1% de doute que ça sera je dis bien dimanche prochain, le premier jour, le 11, et donc l'Eid sera le 20 juillet sera le jour de l'Eid, sachant que l'Eid al-Adha c'est une grande fête, on l'appelle Eid al-Kabir. C'est parce qu'il y a le jour de l'Eid plus 3 autres jours. Hein, après, qu'on alors, appelle
Yom Tishri. On va en parler tout à l'heure, Imam Abdelali. Je rappelle que si vous avez des questions à poser justement sur l'Aïd, sur les moutons, eh bien, vous pouvez le faire au 01 53 48 3000 avant que l'Imam Abdelali ne parte se confiner en Algérie. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec l'imam Abdelali Mamoun. Alors, imam Abdelali Mamoun, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire dès qu'on entre dans le mois de Doulidja ?
Oui, comme on a dit, c'est ce dimanche-là que débute le mois de Dhul-Hijjah, donc dès samedi soir, hein, puisque bien entendu, à partir de le Maghreb, samedi soir, c'est la nuit de la premier jour du mois de Dhul-Hijjah, qu'on appelle Al-Ashr al-Awa'il min Dhul-Hijjah, dont le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour un rappel, nous a dit qu'il n'y a pas d'acte apprécié, aimé par Dieu et mieux récompensé que les actes d'adoration, les actes de bienfaisance qui sont accomplis durant ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Donc il est fortement recommandé de faire des bonnes actions, de multiplier les bonnes actions. Alors bien entendu, vous allez me dire, oui mais quelle bonne action ? On peut faire plein de choses, Philippe. On peut, par exemple, jeûner. Hein.
Alors, est-ce qu'il est recommandé de jeûner les 9 premiers jours du mois ?
Oui, il est recommandé. Alors, c'est surtout le 9e jour, le jour de Arafat. Hein, mais sinon, oui, vous pouvez jeûner tous les 9 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, parce qu'elles font partie globalement des bonnes actions à accomplir pendant le mois, les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Par contre, le 10e jour, non, le jour de l'Aïd, on ne doit pas jeûner. On ne peut pas jeûner le jour de l'Aïd. C'est haram de jeûner le jour de l'Aïd. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit aussi faire de la prière, beaucoup de prières, beaucoup d'invocations. Au moins, par exemple, se dire, voilà, je vais essayer de réciter le Coran, de lire le Coran intégralement. Je suis sûr que Fatima Zahra va le faire. Elle va lire le Coran intégralement, du début jusqu'à la fin, durant ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Donc, il faudra qu'elle fasse au moins 6 hizb par jour. Ça fait 3 juz'. Ça veut dire environ 60 pages par jour, puisque le Coran, il y a 600 pages, multiplié par 10, ça fait 600 pages, c'est ça. Donc, si 60 pages par jour, Fatima, c'est rien, hein, 60 pages, c'est vite fait. Une heure et demie, une heure, c'est bon, c'est fait, hein, c'est bouclé. Aussi, la prière de la nuit, hein, les prières de la nuit. Ceux qui peuvent aller faire l'Umrah, ceux qui peuvent aller le Hajj, là, c'est le top du top. Hein, par contre, eux, les gens qui font à la Mecque,
c'est le top du top, mais là, c'est quand même c'est plutôt compliqué cette année.
C'est plus que compliqué, c'est carrément impossible. Seuls les résidents et les Saoudiens, résidents en Arabie et les Saoudiens, sont autorisés encore une fois cette année à accomplir le Hajj. Donc, ne vous faites pas arnaquer par des agences qui vous promettent de vous envoyer à la Mecque. Il n'y a pas de Hajj cette année, c'est impossible. Par contre, il est possible qu'à la rentrée au mois de septembre, l'Umrah débute. On puisse commencer à travailler l'Umrah dès septembre. Ça, c'est tout, si tout se passe bien. Si en France et dans le monde, non, c'est Philippe, il me dit non, c'est pas possible puisque le variant Delta, là, il arrive en France. Non, il va nous flaguer tout de suite.
Je vous dis pas.
Prédiction.
Je n'ai pas dit que c'était pas possible. J'ai dit les projections voilà, que nous sont mauvaises aujourd'hui ne nous orientent pas vers ce que vous dites. Mais bon, après, on peut toujours voir.
Donc voilà, en tout cas, faites des bonnes actions pendant ces 10 premiers jours, car elles ne sont pas, il n'y a pas d'acte plus aimé de Dieu. Il y a un hadith qui dit justement, qu'un compagnon a dit, Ya Rasulallah, wala al-jihad fi sabilillah, même le jihad n'est pas mieux que de faire des bonnes actions durant ces 10 premières nuits du premier jour du mois de Dhul-Hijjah. Le prophète l'a dit, même le jihad c'est pas mieux, sauf, il dit le prophète, l'exception, qu'un homme parte avec son corps, sa vie et son argent, et qu'il laisse tout là-bas. C'est-à-dire qu'il laisse tout sur le champ de bataille, son argent et sa vie. C'est-à-dire qu'il meurt sur le champ de bataille. Il n'y a que lui qui est mieux que celui qui fait des bonnes actions durant ces 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Alors vous allez me dire, ouais, encore l'islam, religion de guerre, etc. Là, on parle des militaires du rang. C'est-à-dire les gens qui vont vouer leur vie pour défendre la patrie, qui ont ce qu'on appelle, qui sont des militaires du rang déclarés, qui sont officiels, qui font partie d'une armée régulière, qui ont été formés et qui ont été mobilisés pour protéger contre une injustice, contre une tyrannie extérieure. Par exemple, imaginons demain une troisième guerre mondiale contre un régime nazi quelconque. Eh bien, celui qui meurt contre des nazis, alors que les nazis, c'est la tyrannie, c'est le racisme, c'est l'injustice par excellence. Eh bien, s'il meurt sur le champ de bataille, il meurt martyr. Yamutu shahidan. Il rentre au paradis sans jugement. Il est même recommandé de ne pas le laver pour qu'il garde son sang sur lui. Parce qu'il dira le prophète que le jour du jugement dernier, son sang aura l'odeur du musc. Hein, les gens sentiront son sang à une distance énorme, très lointaine. Ils sentiront l'odeur du sang du martyr et il rentrera au paradis sans jugement. Ça, c'est cet homme-là qui est mieux que celui qui fait des bonnes actions pendant ses 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Et c'est tout. Seulement lui est mieux. Tous les autres sont moins bien récompensés que ceux qui font des bonnes actions durant ces mois de Dhul-Hijjah. Donc arrêtons de relayer ou de vouloir abroger cette pratique qu'on appelle al-jihad fi sabilillah, c'est une règle qui concerne une catégorie de nos citoyens qu'on appelle les militaires. Ceux qui travaillent dans l'armée, ceux qui protègent nos frontières, ceux qui protègent notre sécurité, ceux qui s'assurent qu'il n'y ait pas dans le monde quelqu'un qui cherche à nuire aux autres, à envahir les autres territoires. Donc tous ces militaires-là, il faut les respecter. Il ne faut pas se dire non, c'est des hommes violents. Non, c'est des gardiens de la paix. Comme un policier, c'est un gardien de la paix. Il n'est pas son arme dans son étui pour terroriser. Au contraire, il est là pour sécuriser, apaiser, s'assurer auprès, que tous les citoyens soient en sécurité contre une personne malveillante qui pourrait être tourmentée par un démon et qu'il puisse passer à l'acte et commettre des actes de des exactions mortifères. Donc, voilà, que ce soit bien clair. Le djihad, fi sabilillah, c'est quelque chose qui nous appartient. Il n'appartient pas aux terroristes. Le terme djihad, je rappelle, n'appartient pas aux terroristes. Le djihad appartient aux musulmans qui sont dans le juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Je dis pas modéré parce que moi je suis pas un musulman modéré, ni éclairé parce que l'islam est en elle-même une religion éclairée. Donc pour moi ce sont des pléonasmes, voire même des euphémismes que le fait de dire que c'est un islam éclairé ou modéré. L'islam est par nature tend vers la modération. Le prophète disait yassiru wa la tu'assiru, hein, soyez dans une logique de faciliter les choses et non pas d'endurcir les choses. Ça, c'est une recommandation du prophète. Moi, en tant que moufti, en tant qu'homme qui donne des avis religieux à mes co-religionnaires, je tends toujours vers la facilité, vers ce qui va permettre aux musulmans de pratiquer leur religion sans trop de contraintes. Donc, la facilité fait partie de la religion. C'est une nature. Il y a même une règle juridique, Philippe, qui dit al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté attire la facilité. C'est-à-dire, par nature, à partir du moment où une chose est difficile à faire, eh bien, le moufti est invité à donner un avis qui va rendre facile les choses. Il y a des gens qui me disent, voilà, moi je travaille dans un magasin, malheureusement, je suis caissier, par exemple, caissière, ou je dois travailler, sinon comment je vais payer mon loyer? Je suis obligé de parfois de faire passer des bouteilles de vin. Haram, les bouteilles de vin, tu ne dois pas y toucher. Mais si je n'ai pas d'autre choix, Allah ghalib, mashaqqa huna, il n'y a pas d'autre moyen que ça. Donc je lui dis, travaille, garde ton travail et cherche en même temps quelque chose qui pourrait à côté plaire aussi à Dieu tout en permettant de combler tes besoins. Donc on dit aux gens, cherchez à combler vos besoins dans ce bas monde, essayez de le faire toujours en évitant le plus à être confronté à commettre des actes détestables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on fait au mieux, on fait dans la mesure du possible. On n'est pas des surhumains, on n'est pas des anges, et tout le monde a besoin de vivre, tout le monde a besoin d'un salaire pour subvenir à ses besoins. Alors vous avez des femmes qui sont célibataires ou des femmes divorcées ou des femmes veuves qui n'ont plus de mari pour s'occuper d'elles, qui n'ont plus l'homme qui va sortir et trouver du travail. Et donc elles sont obligées de faire elles-mêmes. Il y a même aujourd'hui des transporteurs, par exemple, qui sont obligés de transporter des palettes, ils savent pas ce qu'il y a dedans, de l'alcool ou pas, ils savent pas, peut-être qu'il y en a. Donc ils me posent la question, je leur dis, faites votre travail, khair inshallah, faites votre travail inshallah à la sueur de votre front, c'est mieux que d'aller mendier ou que d'aller voler. Donc travaillez et essayez de toujours tendre vers ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala dans la mesure du possible. Donc je rappelle que ces expressions comme jihad et même le mot irhab qui veut dire, qui est traduit souvent par terrorisme, eh bien il faut savoir que c'est une expression que l'on retrouve dans le Coran. Dieu dans le Coran il dit وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. C'est-à-dire prédisposez-vous de moyens militaires, des chevaux, comme disait à l'époque le Coran, qui permettront de dissuader, donc, et non pas de terroriser. Un turhibuna bihi adullah, turhibuna du verbe irhab, arhaba, qui veut dire faire peur. Alors, on va dire, ouais, ça veut dire terroriser. Non, ici, les savants n'ont pas traduit par terroriser le mot turhibuna, mais ils l'ont traduit par le terme persuader. Tu persuades l'adversaire que tu es suffisamment puissant pour qu'il tente de te faire du mal parce qu'il sait qu'il va y laisser des plumes. Il sait que s'il s'attaque à toi, eh bien, il va lui aussi subir du tort. Donc, on parle de, par exemple, d'armes de destruction massive comme étant des armes dissuasives et non pas des armes véritablement de destruction qui vont être utilisées pour détruire. Mais un pays qui sait que son adversaire qu'il a envie d'agresser, il détient la bombe atomique, par exemple, ben il va pas l'attaquer parce qu'il sait que sinon il va prendre une bombe sur la figure. Et là, il va laisser des plumes. Donc ces armes-là que beaucoup de pays ont, il y en a une dizaine à peu près qui l'ont aujourd'hui dans le monde, eh bien s'ils l'ont, c'est pour protéger le reste de la planète contre aujourd'hui une guerre mondiale qui donc serait elle dévastatrice et répandrait la mort sur toute la planète. Donc il faut arrêter de dire que le mot irhab est un terme propre au terrorisme, c'est faux puisqu'il est dans le Coran, et le terme jihad aussi, c'est un terme qui est dans le Coran que nous devons nous réapproprier et qui concerne l'armée régulière, l'armée d'un pays qui est mobilisée par un état légal qui va donc intervenir pour défendre une cause juste et noble.
Alors nous avons Zora qui est à Toulouse au 01 53 48 3000. Zora, bienvenue.
Oui, bonjour à tout le monde et salam alaikum.
Wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi wa barakatuh. On a fait une petite parenthèse, on est sorti un peu
oui,
du sujet.
Là, vous avez mais digressé,
c'est
pas grave.
C'est toujours intéressant de rappeler, parce que des gens disent non, mais c'est le jihad en nefs, c'est le jihad contre son âme passionnelle. Non. Le jihad en nefs, c'est quelque chose. Et le jihad, qui consiste à aussi mettre en place une armée régulière pour protéger la sécurité des gens, c'est autre chose et c'est légitime. Il n'y a aucun problème. Arrêtons de nous prendre la tête avec ça. Voilà.
Zora, quelle est votre question, s'il vous plaît ?
Alors, ma question, elle est toute simple. En fait, pour X raisons, on ne peut pas faire l'aide, par exemple, et on veut le donner à quelqu'un.
Oui.
Est-ce que c'est accepté par
normalement, quand quelqu'un a les moyens de célébrer le sacrifice de Eid al-Adha, il doit le faire pour lui et sa famille. Celui qui n'a pas les moyens en est exempté, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation de le faire à partir du moment où il n'a pas les moyens de payer le mouton pour égorger. Maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez déléguer une personne pour qu'elle égorge votre mouton, c'est-à-dire que au moment d'abattre l'animal, c'est votre mouton qui est égorgé. C'est-à-dire que vous avez deux choses différentes, faut distinguer. C'est l'abattage rituel, le nosouk, al-dhabiha, al-udhiya, le sacrifice en tant que tel, en tant que acte, en tant que rituel d'adoration, et vous avez la carcasse, c'est-à-dire la viande qui va en découler, c'est-à-dire l'animal que l'on va manger derrière, dont la chair, on va manger la chair. Eh bien là, cette chair-là, le prophète a recommandé d'en manger un petit peu. Si c'est pas possible, vous pouvez donner tout. Vous pouvez donner tout aux pauvres, parce que par exemple, c'est fait ailleurs, dans un autre pays par exemple. Là, vous n'avez pas le choix que de donner l'intégralité de votre mouton qui est égorgé en votre nom, mais dont la chair va être distribuée intégralement aux pauvres. Vous comprenez ça? Par contre, donnez votre argent à vous pour qu'une famille démunie puisse égorger pour elle. Non, ça c'est pas bien faire. On lui donne l'argent, elle va égorger, mais elle doit égorger en votre nom à vous. Est-ce que je suis bien? Est-ce que vous avez compris la différence? Allô?
Moi, je dis pas que j'ai pas les moyens. Alhamdoulilah, je peux le faire. Mais le truc c'est que dans des conditions pareilles, on peut pas. C'est juste pas possible dans certains endroits, dans certaines villes, c'est pas possible de le faire.
Madame, vous parlez pas à quelqu'un qui arrive de la Lune. Expliquez-moi votre cas et moi je vous dis si c'est possible ou pas. Allez-y.
Moi, je peux pas le faire parce que voilà.
J'ai compris, mais vous voulez l'envoyer où ?
Ben, par exemple, moi j'ai entendu la dernière fois, il y avait quelqu'un qui est passé chez vous à la radio. Il a dit qu'il peut le faire, qu'il peut donner, par exemple.
Voilà. Donc ça veut dire, j'ai bien compris. Donc ça veut dire que vous allez au moment de à cette organisation qui va vous donner votre nom. Et il va y avoir un numéro associé à votre nom et il y aura un animal qui portera ce numéro-là. Ce numéro-là qui correspondra au nom, à votre nom. Et donc l'animal qui sera égorgé sera votre mouton à vous. Il sera ensuite distribué aux pauvres, certes, mais c'est votre mouton qui sera égorgé en votre nom. Parce qu'il y aura le numéro qui correspond au nom. Est-ce que vous comprenez ? La même chose à la Mecque, hein, vous savez, au grand pèlerinage, c'est la même chose, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, vous achetez un mouton, le nom correspond à un numéro. Le numéro, c'est celui qui est accroché à l'oreille de l'animal. Il y a un numéro dessus. L'animal est égorgé, il n'y a pas besoin de citer le nom, puisque le nom, le numéro correspond à une personne, à un nom. D'accord ?
Ensuite, si on veut faire un don, il faut qu'il y ait le premier qui est à vous, et le deuxième, c'est un don en...
Si vous voulez, vous pouvez en faire deux, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez donner le mouton, faire en sorte qu'une famille démunie puisse égorger pour elle son mouton à elle, eh bien oui, effectivement, vous devrez donc verser deux moutons, le vôtre et le sien. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, je répète. Et elle-même n'est pas obligée de le faire, puisqu'elle n'a pas les moyens, elle est exemptée. Mais si vous lui donnez l'argent pour qu'elle égorge votre mouton, donc elle va égorger, donc elle aura la récompense avec vous d'avoir égorgé l'animal, et elle, en plus, elle en profitera intégralement. Donc si vous n'avez pas les moyens de payer deux moutons, vous en payez une, un mouton seulement, et cette famille va pouvoir profiter de la chair et de l'animal pendant plusieurs semaines. Inch'Allah.
Inch'Allah. Bon, ben là, je vais, si ça ne vous dérange pas, à la fin de l'émission, vous redonnez toujours le numéro de l'organisation. Là,
ah, c'est Dignité Internationale. D'accord. Dignité Internationale, tout à fait.
D'accord, ça marche.
Bon, on vous le donnera tout à l'heure.
Et déjà, madame, Dignité Internationale, vous mettez sur internet digniteinternationale.org, c'est ça, Philippe? C'était ça?
Oui.
Déjà, vous allez tomber sur l'organisation adéquate qui vont. Digniteinternationale.org.
Ok, voilà,
Inch'Allah. Et puis on va, Philippe, il va redonner. Écoutez, restez avec nous sur Beur FM, on vous donnera, Inch'Allah.
Je souhaite à tout le monde Eid Mubarak, Inch'Allah, et que le bon Dieu nous lève tout ça.
Amin, jamais, Inch'Allah. Jamais. Allahumma arfa'anna al-waba wal-bala.
Merci Zora. Voilà, on donnera les coordonnées tout à l'heure. Et si vous avez une question à poser à l'imam Abdelali Mamoun, je vous rappelle que vous nous appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beur FM.
Voilà, et vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000. On a Yacine qui est avec nous. Yacine, bienvenue.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam. Marhaban akhi Yassine. Ahlan wa sahlan.
Marhaban bik.
Soualakoum.
Soual asasi fil mabda. Alayka bi haram lahm al khinzir man hamalahu wa akalahu. Wa alayka bi haram al khamr man hamalahu wa sharabahu wa da'a alayhi.
Non. Donc je vais traduire en français pour que les gens comprennent votre question, akhi al-karim. Alish. Je la traduis en français. Donc le frère, il dit, est-ce qu'il est vrai que le porc, il est interdit de le manger, de le transporter, de le vendre, etc. Ainsi que l'alcool, il est interdit de le porter, de le transporter, de le manger. C'est bien ça votre question, Akhil Karim?
Oui.
Juste Akhil Karim, essayez de poser une question sans y mettre de l'émotion. C'est-à-dire sans le, il faut rester dans يعني معقول يعني بلا ما نشعل العواطف. فهمت كيف؟ احنا على بالنا شنو اللي حرام شنو اللي ماشي حرام فهمت اخويا سؤال ثاني تفضل
comme le fait l'imam Abdelali Mamoun qui met jamais d'émotion
comment se fait-il qu'une chaîne qui est destinée et qui fait des émissions d'IVA fait de la publicité pour du porc et de l'alcool de la bière c'est indigne il y a une déviation de la chaîne par rapport à son contexte.
D'accord, je vais répondre à ta question.
Moi je peux vous répondre, Yacine.
Vas-y,
encore une fois je vais vous dire Yacine. Vous avez déjà la possibilité d'avoir une émission religieuse toutes les semaines, une fois par semaine. Voilà. Et deuxièmement, Beur FM est une chaîne commerciale.
Une radio.
Une chaîne de radio commerciale, laïque. Donc, voilà. Et en plus, pour vraiment expliquer comment ça se passe, nous, il y a une partie de la pub dont on a, sur laquelle on n'a aucune visibilité qui nous est transmise par des boîtes hein, de avec lesquelles on a des contrats de publicité. Donc on n'a pas de regard sur ces.
Ouais, ils sont imposés par le voilà. Alors je rappelle à Khouel Karim, ceux qui sont comme des crocodiles avec des grandes bouches et des petites mains, je leur dis d'allonger plutôt leurs mains plutôt que d'allonger la bouche. Il a si tu veux les moyens, tu sors l'argent et on va ensemble, inchallah, on va acheter une radio. Et puis on va faire que des programmes religieux. Menta, Dgoli consacré, m'a consacré, c'est une chaîne privée qui appartient à des gens. Voilà, et c'est une chaîne laïque. Qui n'a pas été déclaré comme une radio musulmane. Donc si vraiment il a عندك نتايا de comment نقول الفم باش تفرض الراي تاعك هو خرج الفلوس بسم الله تفضل on va faire une radio intégralement musulmane et là à ce moment-là on aura que des programmes musulmans. En attendant cette radio je rappelle qui sont très généreux, je les remercie au passage. Allah et Jazihum, qu'Allah les récompense. Il nous donne la possibilité d'avoir un créneau où on peut parler religion une fois par semaine. Mais je rappelle, ce n'est pas une radio musulmane. Beur FM est une radio, allez, on peut dire un peu communautaire, mais voilà, c'est arabo-berbère. Hein, pas, Pas musulmane, d'accord.
Alors, ça c'était pour Yacine. On a Nadia qui est avec nous, 01 53 48 3000. Nadia, bienvenue. Nadia. Ou pas.
Allô, allô.
Oui, Nadia.
Moi, j'aimerais savoir, salam alaikum, quand on fait le est-ce qu'il est obligé d'en manger?
Non, non, non. Vous pouvez donner tout aux autres. Le prophète, il y a un hadith dans lequel il dit, il est bien de prendre un tiers pour soi, un tiers vous les donnez aux pauvres et un tiers vous les mettez de côté pour après nourrir avec vous-même ou vos proches. Ou carrément, pourquoi pas, le jour de l'Aïd, organiser une fête et donner à manger à votre entourage, votre famille que vous invitez à la maison avec une partie de l'animal. Mais si, mais bien entendu, donner l'intégralité du mouton aux pauvres, c'est mieux récompensé que de ne donner que le tiers. Forcément, plus vous en donnez, mieux vous êtes récompensé.
Bah, il y a une autre question. Est-ce qu'on doit,
tout à fait. J'attendais l'opportunité pour pouvoir en parler. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit et recommande, et il y a plusieurs hadiths qui font allusion à ça, que quand débute le premier jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire à partir de dimanche, il est recommandé, pas obligatoire, il est recommandé de ne pas se couper les cheveux, ni couper la barbe, ni couper ses ongles, c'est-à-dire se comporter un peu comme un pèlerin en état de sacralisation. Vous savez que Al-Muharim, fait le Hajj, la yaqussu sha'rahu wa la yaqussu adhafirah, il ne coupe ni ses ongles, ni ses cheveux, etc. Il est en état de sacralisation. Eh bien, le prophète nous a dit que, il dit que celui qui a l'intention d'égorger un mouton, comme l'a fait le prophète, alayhissalam, quand il est venu de Médine jusqu'à la Mecque, wa huwa yasurq al-hadi, c'est-à-dire qu'il avait avec lui un troupeau de moutons, qu'il a emmené avec lui tout le trajet entre Médine et la Mecque. Eh bien, pendant tout le trajet qui a débuté dès le début du mois de Dhul Hijjah, eh bien, il n'a pas coupé ses ongles, ni coupé ses cheveux, ni même utilisé du savon ou du parfum, puisque en état de sacralisation, ce sont des choses qui sont proscrites, qui sont interdites. En état de sacralisation, je parle en état, en arabe, on appelle ça al-ihram, ihram ou al-umrati wal-hajj. Celui qui donc part avec des moutons, il ne doit pas se couper les ongles, puisqu'il est en état de sacralisation. Donc le prophète nous demande d'imiter, d'essayer de s'imprégner de ces gens qui sont en train d'accomplir le pèlerinage et au moins d'essayer de les ressembler sur quelques points, notamment en s'interdisant de, comme eux, de se couper les cheveux, de se couper les ongles. Donc en effet, dès dimanche, dès samedi soir, on va dire, hein, déjà à partir de l'Maghreb, vous êtes invité à ne pas vous couper les cheveux, etc., etc., jusqu'à le jour où vous allez abattre l'animal. Après, le jour de l'abattage de l'animal, vous pouvez effectivement aller chez le coiffeur ou vous couper les ongles, etc. Donc ça, c'est une... Par contre, si quelqu'un, il le fait... Ah non, 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 non. Juste les cheveux et les ongles. Non, le savon, si. Ah non, non, non. Il faut se laver. Il faut se laver avec du shampoing, du savon, du parfum. Il y a que le fait de se couper les cheveux et de se couper les ongles auquel on est invité à éviter durant ces 10 jours. Je dis bien à éviter. C'est-à-dire si quelqu'un malgré tout va chez le coiffeur, il n'aura pas commis de péché. Simplement, il n'aura pas appliqué une sunna, une recommandation. Même si vous déléguez. À partir du moment où vous avez votre mouton qui va être égorgé en votre nom, c'est pareil.
Voilà, Nadia, merci. Lassen est avec nous au 01 53 48 3000. Lassen, bienvenue.
Allô.
Allô, oui. Lassen, salam alaikum. Marhaba bik.
Oui, salam, ça va?
Alhamdulillah, et toi, ça va?
Alhamdulillah, bah, je vous appelle de Toulouse.
Ahlan.
Vous avez bien raison.
Oui, je suis actuellement à Toulouse, mais je suis seul, je vis seul.
D'accord.
Ma femme, mes enfants, ils sont au pays. Et là, pour l'Aïd, je voudrais demander à l'imam, est-ce que je vais acheter l'Aïd?
Bah écoute, Akhouya Karim, si tu as un peu d'argent, tu leur envoies cet argent à la famille là-bas au bled et ils vont égorger le mouton, ils vont le manger à ta place.
Voilà, ouais.
C'est très bien, c'est parfait.
Mais ici,
tu fais rien.
Je suis pas
tu fais rien,
de,
non, non.
Tu es un mouton.
Non, pas du tout. Pas du tout. Si tu veux le faire, tu as le droit, tu peux, tu peux le faire si tu as envie, mais si tu fais ça au bled et tu délègues la famille là-bas au bled, ça suffit.
Ouais, c'est pour mes enfants, mes petits-enfants, là je vais leur envoyer de l'argent, comme ça ils pourront...
Allahumma barak, Allah yajazik khairan, qu'Allah te récompense, inshallah.
Barakallah fik cheikh.
Fik el baraka, marhaba bik.
Shukran, salam alaikum.
Wa alaikum.
Merci Lassen. Alors, je vous ai promis de vous donner le numéro de téléphone de Dignité internationale. Donc, j'espère que vous avez de quoi noter.
Tout le monde a un stylo dans la main. Pour ceux qui veulent déléguer, un mouton au bled. Ah, par contre, j'ai aussi moi au bled, puisque je pars demain, inchallah, des gens là-bas, ceux qui veulent, j'ai des gens qui sont dans le besoin, des familles démunies. Hein, j'accepte si aujourd'hui les gens ont le temps. Ils veulent me déléguer pour que je puisse fournir là-bas les moyens aux gens d'égorger les moutons. Je veux bien qu'ils m'appellent au 06 29 25 35 00. Mais ça, c'est qu'aujourd'hui. Après, j'aurai plus le temps, bien sûr. 06 29 25 35 00. Ou bien sûr, si vous n'avez pas le temps, aujourd'hui, bah, Dignité Internationale se fera enfin, le plaisir.
Même s'il y a d'autres associations hein, qui
proposent des services. Il y a même à manger pour tous hein, qui le fait aussi. Hein. Vous pouvez faire égorger le mouton et après apporter votre viande à l'association à manger pour tous. En tout cas, Dignité Internationale, c'est bien parce qu'ils font à l'étranger dans des pays où il y a beaucoup de pauvres.
Alors, le numéro, si vous voulez bien le noter, c'est 0951.
0951, Philippe.
96.
96.
79.
79.
95.
95. Donc ça, c'est Dignité Internationale. Attention, il faut leur préciser votre nom. Pour que un animal qui sera avec un numéro correspondra au numéro de votre nom et donc l'animal sera égorgé en votre nom et ça passera tout à fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, où il y a aussi moi, mais aujourd'hui, je répète, que seulement aujourd'hui, 06 29 25 35 00. C'est aussi le numéro que je donne pour poser vos questions. Alors jusqu'à demain, parce que si après demain, je ne serai plus là.
Oui, surtout sachant que vous faites du mois à la mosquée de Paris. Vous n'avez pas des masses de temps. Hein.
Bon, là, il y a maintenant à 11h jusqu'à 1h, parce qu'après, il y a le Jumu'ah, et après 15h. Donc, après, ça sera après 15h jusqu'au soir. Je n'ai pas de problème, je réponds. Hein. Tous les jours, on m'appelle Philippe et je réponds. Ce matin, sur le trajet, j'ai répondu à pas mal de 2-3 questions. Je reçois tous les jours des appels. Par contre, à partir de demain, dans la journée, je serai plus joignable, c'est plus la peine de me joindre. Je serai en vacances, Inch'Allah, fil Jazair, Inch'Allah, Ya Rab. Voilà, salam alaikum.
Au Bahamas.
Et bonne fête de l'Aïd si j'arrive pas à vous le dire.
Voilà, l'imam Abdelali.
Au Bahamas.
Au Bahamas.
Au Bahamas. Ouais. C'est quoi ça, les Bahamas? C'est où ça, les Bahamas?
Bah, vous êtes au Bahamas, non? Vous partez pas aux Seychelles?
Non, non. Jazair. Ouais. One, two, three. Et voilà l'Algérie.
Bien, bonnes vacances, l'imam Abdelali, Mamoun. Vous les avez bien mérités parce que vous avez beaucoup donné cette année. Merci d'avoir été avec nous et passé une très belle journée sur Beurre FM.
Au revoir.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.